Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Noéla Luzitu Kabambi.
L'Alliance of Love Congo AFC M23 ne prendra pas part aux négociations directes prévues à partir de ce mardi à Luanda en Angola. AFC M23 a annoncé hier soir sa décision, la motivant par des sanctions prises par certaines institutions internationales contre ses membres à la veille des discussions notamment. Mais le gouvernement congolais confirme, lui, la participation de la délégation congolaise à ces négociations. Dans ce journal, les propos de Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 sont reprogrammées pour les candidats autodidactes de trois provinces éducationnelles touchées par la crise sécuritaire. L'annonce a été faite le week-end dernier à l'issue de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 14 mars. L'invité de ce journal s'appelle Zaki Madilo. Il est le directeur administratif et financier de l'ONG Faja Lobby, une organisation active dans le domaine de l'environnement dans le territoire d'Idiofa, province du Kwilu. Bonjour à tous. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a annoncé hier soir son retrait des négociations directes avec le gouvernement congolais, négociations initialement prévues pour débuter ce mardi en Angola. Dans un communiqué, le M23 AFC accuse certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix en RDC en imposant des sanctions à ses membres, y compris à la veille des discussions. Une décision qui compromet sérieusement ce dialogue, pourtant considéré par une certaine opinion comme une lueur d'espoir pour une sortie de crise dans l'est du pays. Martial Papimukeba.
L'un des principaux enjeux de ces négociations devait être la question du retrait de l'AFC M23 et des troupes rwandaises des zones occupées. Au-delà des grandes villes comme Goma et Bukavu, les rebelles contrôlent en effet plusieurs localités et villages stratégiques au nord Kivu et sud Kivu. Toute avancée dans ces processus devait être précédée d'un engagement des parties en conflit à respecter un cessez-le-feu. Un autre point clé concernerait l'examen des revendications du M23, bien que les contenus exacts de leur cahier des charges ne soit pas encore connu, les rebelles affirment depuis leur résurgence qu'ils se battent notamment pour la bonne gouvernance et le retour des réfugiés installés dans certains pays voisins. Ces discussions devaient inévitablement être influencées par la dimension régionale du conflit. Les rôles du Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir les M23, ainsi que les accusations de Kigali, selon lesquelles la RDC collaborerait avec les FDLR et des groupes armés au style reste des points de tension majeurs. Il faut dire que le revirement de l'AFC M23 intervient alors que les pourparlers de Luanda étaient perçus comme une opportunité majeure pour désamorcer la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays depuis près de 3 ans.
Kinshasa confirme par contre la participation de la délégation congolaise à ces négociations de Luanda malgré le refus de dernière minute du M23 AFC. On écoute à ce sujet la porte-parole du président de la République, Tina Salama, est jointe par Pelé Kipela Mondo.
Alors, l'Angola s'est donc assuré que notre délégation soit présente. Donc, des représentants de l'État congolais vont se rendre, comme prévu, à Luanda pour, bien évidemment, répondre, on va dire, à cette invitation du médiateur, le président João Lourenço. Alors, pour nous, c'est tout simplement pour, on va dire, adhérer à ce principe. Nous adhérons plutôt à ce principe, on va dire, pour sauvegarder les acquis du processus de Nairobi et celui de Luanda, auxquels nous sommes attachés via la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU.
Et comme l'a confirmé hier soir la présidence angolaise sur son compte Facebook, la délégation de la RDC pour les négociations directes avec le M23 est déjà sur place à Luanda. La délégation du M23 de son côté doit également arriver dans la capitale angolaise, précise la même publication. Toutes les conditions sont réunies pour le début des négociations directes ce 18 mars, comme prévu, indique la présidence angolaise. Pendant ce temps, Kinshasa salue ces nouvelles sanctions de l'Union européenne contre les membres du M23. 2023 AFC et le Rwanda. Dans un communiqué publié hier par le ministère de la Communication et Médias, le gouvernement de la RDC salue les sanctions imposées par l'UE à l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz et à la raffinerie d'or de Gasabo. Pour Kinshasa, ces sanctions constituent la première étape dans la lutte contre le pillage des richesses minières de la RDC par le Rwanda. Kinshasa dit saluer aussi toutes les sanctions déjà prises par l'UE, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Canada à l'encontre du Rwanda. Ces sanctions, je cite, renforcent la conviction de la communauté internationale quant à la responsabilité directe du gouvernement rwandais dans la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Autre réaction à la suite des sanctions de l'Union européenne imposées à certains responsables rwandais et du M23, le député européen Thierry Mariani, membre de la commission commerce international de l'Union européenne, estime qu'elles sont une première victoire. Mais, nuance-t-il, il faut aller plus loin avec le retrait immédiat de l'armée rwandaise et du M23 de l'est de la RDC. Selon lui, la pression doit continuer. Le député européen Thierry Mariani est dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
L'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour laquelle on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression et les pillages qu'il fait depuis des années en République démocratique du Congo, eh bien le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce que une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda des territoires congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23.
Sachez que vendredi dernier, Thierry Mariani a été reçu à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi. Il conduisait une délégation des députés européens, membres du groupe des patriotes du Rassemblement national. Les deux parties avaient échangé sur quelques avancées diplomatiques dans la voie d'une résolution de la crise dans l'est de la RDC. Notez aussi, toujours dans ce chapitre, l'appel des mouvements dynamiques, plateformes et associations de la société civile congolaise à l'adhésion d'autres composantes, forces politiques et sociales dans le dialogue direct entre le gouvernement et le M23. Dans une déclaration hier devant la presse à Kinshasa, le secrétaire exécutif du réseau de promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, PRODES, explique cet appel endossé par une cinquantaine d'organisations par le fait que la crise sécuritaire en RDC est complexe et multidimensionnelle parce qu'elle est aussi politique, économique et sociale. Dany Singoma estime que l'avenir de la RDC doit être scruté et tracé autour d'une table par tous les fils et filles du pays. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Ces organisations estiment que la crise sécuritaire en République démocratique du Congo n'est pas simplement celle liée à la question du M23, mais c'est une crise qui est complexe et multidimensionnelle parce qu'elle est aussi politique, économique et sociale. Et aussi, il faut se souvenir que les autres coins du pays sont gravement affectés par des crises comme en Ituri, où il y a des massacres, des morts dans les Grands Katanga et dans d'autres coins du pays, dans les Kwilu, les Kwango et même ici aux portes de Kinshasa, dans les Maïndombe aussi. On sent aussi qu'il y a vraiment une crise sécuritaire très très importante. Cet appel de la société civile recommande à toutes les composantes de la vie nationale et particulièrement les belligérants à privilégier la voie de la raison et du dialogue en s'engageant pour un dialogue franc et sincère qui réunit toutes les composantes de la nation congolaise. Nous trouvons dangereux de laisser les belligérants entre eux nous imposer leur façon de voir l'avenir du Congo. Je pense qu'il est temps que les autres composantes, les forces politiques et sociales se retrouvent aux côtés du gouvernement et du M23 pour ensemble scruter l'avenir de la République démocratique du Congo. Il est temps que tout soit mis sur la table.
Notez que cette déclaration intervient après le lancement samedi dernier à Kinshasa par 7 organisations de la campagne nationale de la société civile pour la paix et la cohésion nationale. En Ituri, l'Union des associations pour le développement intégral de l'Ituri, UNADI, poursuit sa mission de paix à Kampala, dans la capitale ougandaise. Une semaine après, son responsable indique que les consultations continuent avec la diaspora congolaise dans le cadre de la recherche de la paix durable dans cette province. La société civile Force Vive de l'Ituri encourage cette démarche qui, selon elle, inclut tous les fils et filles de cette province dans le processus de paix. Martial Kizabiamungu.
Cette délégation est composée du président de l'Union des associations pour le développement intégral de l'Ituri, INADI, Michel Meta, des notables Floribert Ndjabou, Robert Bougui-Chabakou, Ounega Egué, Etienne Etibendira Makabarole. Selon un des membres de cette délégation, leur mission s'inscrit dans le cadre du dialogue intercommunautaire initié pour rechercher des solutions durables pour les retours de la paix avec la participation de tout le monde. Michel Meta reste confiant quant à ici de leur contact avec des membres de la nouvelle rébellion des conventions pour la révolution populaire CRP, dirigée par Thomas Lubangadilo. C'est lundi, la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri dit soutenir toute démarche qui s'inscrit dans la réconciliation et les retours d'une paix durable dans cette province. Son coordonnateur, Dieudonné Lossa, encourage les missionnaires d'aller jusqu'au bout pour l'intérêt de toute la population. Notons, cette démarche appuyée par les autorités provinciales s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations sorties du dialogue intercommunautaire organisé par INADI à Bounia il y a environ 2 semaines. Bounia, Martial Kizapiamongo, Radio Okapi.
Les 619 candidats autodidactes de 3 provinces éducationnelles touchées par la crise sécuritaire vont finalement passer leurs épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025. Annonce faite à l'issue de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 14 mars. Ces candidats, dont ceux de la province éducationnelle Nord Kivu 1, font face aux défis, notamment ceux liés à l'occupation d'une partie du Nord Kivu par le M23. Bernard Demiangui.
La date du 25 mars pour ces examens préliminaires en faveur des élèves autodidactes du secondaire des provinces éducationnelles Nord Kivu 1 et du Sud Kivu 1 et 3 a été fixée à l'issue d'une réunion de concertation tenue du 10 au 12 mars dernier avec les inspecteurs provinciaux principaux en charge des provinces concernées, indique le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier rendu par le porte-parole du gouvernement. La crise sécuritaire consécutive à l'occupation d'une grande partie des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu a causé la fermeture de plusieurs écoles affectant des milliers d'enfants et des programmes scolaires. Prévue mardi 7 mars dernier sur toute l'étendue du territoire national, l'épreuve préliminaire de l'examen d'État 2025 pour les candidats autodidactes n'avait pas donc été organisée dans les dites provinces au détriment de 619 candidats. Si la date est fixée pour ce mardi 25 mars prochain, rien n'est rassuré jusqu'à présent de l'effectivité de ces programmes, indiquent les autorités scolaires au niveau de Goma. Pour ces derniers, en effet, jusqu'à présent, 9 jours avant la date annoncée, les mâles des examens ne sont pas encore arrivés. Et donc, ces derniers attendent l'arrivée de ces examens pour être sûrs.
La province du Maniema dispose désormais de son tout premier site d'information professionnelle. Il s'agit du média en ligne dénommé pépiteinfo.com. Ce site est de l'ASBL, collectif des journalistes pour la promotion de la démocratie et la défense des droits de l'homme. Selon son directeur général, grâce à ses activités médiatiques, ce site vient militer pour la promotion de la paix, la démocratie et la bonne gouvernance. Daniel Kazouza Célestin est au micro de Florence Kizalunga.
Pépiteinfo.com est le tout premier site internet, le tout premier média en ligne de la province du Maniema qui vient, grâce à ses activités médiatiques, promouvoir la paix, la bonne gouvernance et la démocratie dans la province du Maniema. On s'était rendu compte que le monde est en train d'évoluer avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. La population du Maniema, d'une façon générale, n'a pas accès à l'information. J'ai fait surtout allusion à nos populations qui ne vivent pas à Kindu, mais qui ont des téléphones, qui ont accès à la connexion internet. Comment ces populations-là auront accès à des informations fiables sur la bonne gouvernance, la démocratie et la paix au Maniema. C'est comme ça que nous, on a décidé de faire autrement la presse, s'approprier le monde de la presse en ligne pour informer les populations qui vivent dans l'ignorance, dans les coins les plus reculés du chef-lieu de la province du Maniema. Vous êtes sans ignorer informé que la province du Maniema, sur le plan médiatique, est enclavée. Hormis la ville de Kindu, d'autres cités de la province, d'autres territoires de la province ont du mal à accéder à des informations. Et donc, grâce à Pépite Info, un média en ligne, nous supposons que ces populations-là qui vivent un peu très loin du centre-ville de Kindu auront accès à de bonnes informations.
À Kinshasa, parlons transport en commun, notamment pour les étudiants. Les bus Transacadémia ne sont plus visibles sur les artères de la ville depuis 3 semaines environ. Cette rareté est la conséquence de la grève décrétée par les conducteurs de cette entreprise publique qui assure le déplacement des étudiants dans la capitale. Mais gestion arriérée de salaire et aussi mauvais traitement, ce sont là les griefs que les conducteurs reprochent à leur direction. Les étudiants qui empruntent régulièrement ces bus sont butés à des difficultés liées à leur déplacement. Plotin Yambenga et Benjamin Moudoumbi décrivent la situation dans ce reportage.
Les arrêts de bus qui sont régulièrement pleins d'étudiants, nous les avons trouvés presque vides ce lundi matin. Quelques étudiants ayant appris la reprise du trafic de ce lundi à travers un communiqué de l'entreprise s'y sont présentés. Mais 2 heures après, toujours pas de bus en vue. Découragés, ils sont allés se débrouiller autrement.
Avant, je me réveillais à 5h pour venir, je partais à l'arrêt de bus. Je prends le bus à 5h, mais ce jour, si je me réveille à 3h30, je me prépare vers 4h. À 9h que je prends Gombe, avec le peu qu'on nous donnait, on reçoit avec quelque chose qui nous aidait aussi à manger. Mais ce jour, si vraiment, ça ne va plus. Vu que j'ai résidé dans les dépenses de 25 000 francs par jour.
De leur côté, les conducteurs rencontrés ce même lundi fustigent notamment la gestion de cet établissement public sous tutelle du ministère des Transports et Voies des Communications.
Au moment où je te parle, nous accusons 10 mois d'arriérés alors que la compagnie n'a que 2 ans. En 2023, nous n'avons été payés que 4 fois. Nous sommes responsables. Les parents, d'autres ont été chassés de leur maison en location. D'autres encore vivent dans des conditions difficiles. Les couples qui viennent de se marier ne vivent plus sous le même toit. En tout cas, cette gestion n'est pas bonne. C'est quel genre de société?
Pourtant, des sources de la direction nous ont rassurés sur un début de paiement des arriérés. Cette grève est la 4e depuis la création de l'entreprise en 2023.
Actualité internationale.
La garde nationale de Tunisie a annoncé avoir secouru dans la nuit de dimanche à hier lundi 612 migrants subsahariens qui tentaient de rallier l'Europe et a repêché 18 corps d'autres candidats à l'immigration provenant des pays d'Afrique subsaharienne. Des images vidéo diffusées par des gardes-côtes rattachés à la garde nationale montrent des personnes épuisées, parfois munies de grosses bouées noires, notamment des femmes et des enfants dont certains paraissent morts. Les rescapés ont été secourus dans plusieurs opérations dans la région de Sfax après que leurs embarcations ont chaviré ou sont tombées en panne. Des milliers de migrants subsahariens, entre 20 à 25 000 selon des sources humanitaires, s'entassent depuis des mois dans des campements de fortune sans eau potable ni hygiène ni soins médicaux près de villages comme El Amra, à une trentaine de kilomètres au nord de Sfax, à proximité des plages d'où régulièrement ont lieu les départs clandestins. L'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, a dénoncé dans un rapport paru en janvier le fait que les migrants subsahariens se retrouvent souvent privés de solutions d'hébergement et laissés dans une situation précaire et dangereuse.
L'invité
de ce journal est Zaki Madilo. Il est le directeur administratif et financier de l'ONG Faja Lobby, une structure active dans le domaine de l'environnement dans le territoire d'Idiofa, province du Kwilu. Cette ONG, créée en 2012, emploie aujourd'hui 3600 personnes issues des communautés locales. Ensemble, ils ont déjà planté 9000 hectares d'arbres forestiers. Dans cet entretien avec Ploté et Yambenga, Zaki Madilo évoque aussi les défis majeurs que sont l'insuffisance de la loi pour protéger la forêt. Suivez.
Monsieur Zaki Madilo, bonjour.
Bonjour, monsieur Plotin.
Quelles sont vos grandes réalisations après 13 ans d'existence?
Oui, nous avons déjà ces jours presque 9000 hectares d'arbres. On travaille dans des zones savanicoles où nous plantons des espèces forestières. Donc pour créer un microclimat, en copier un peu des forêts qui sont primaires dans la région. Donc jusqu'à ces jours, nous sommes déjà à 9000 hectares avec une densité de 1000 arbres par hectare.
Est-ce que vous estimez avoir atteint vos objectifs?
Je pense que l'objectif n'est pas encore atteint parce que notre vision est de planter 50 000 hectares. Donc jusque là, on est à 9 000. Cela peut être lié à des contraintes financières qui font que nous puissions pas avancer au plus vite que possible. Mais on pense qu'avec ce qu'on a fait, on est satisfait parce que les résultats, il est tellement visible et aussi l'implication d'une grande partie de la communauté locale, c'est ce qui nous réjouit.
Et jusque là, quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
La plus grande difficulté, c'est l'incompréhension avec les diasporas, comme j'appelle. Ce sont des gens qui n'habitent pas la région d'Idiofa et qui sont originaires d'Idiofa, mais depuis des années, ils sont pris dans la région. Et en fait, ils donnent un peu une interprétation selon eux sur le projet, disant que Faya Lobby prend tout le terrain de la communauté, alors que c'est faux. Ça, c'est une première contrainte, ça crée de l'incompréhension. Et peut-être aussi les faits de brousse, parce qu'on a plusieurs fois eu des faits de brousse répétés, au plus de 600 hectares brûlés, mais aussi la faiblesse de la loi, qui fait que quand quelqu'un brûle des concessions comme ça, ça passe un peu impuni. Troisièmement, il y a aussi des contraintes liées aux subventions, parce que nous n'avons pas une source de financement stable. Nous dépendons de financement de l'extérieur. Et après, on n'a jamais eu un appui gouvernemental depuis qu'on travaille. Avec 9000 hectares, quand même, c'est beaucoup. La difficulté majeure, c'est liée au financement, qui fait que nous ne puissions pas accélérer comme on projette atteindre nos objectifs.
Et vous êtes également dans l'agriculture. On voudrait savoir quelles sont exactement les activités agricoles que vous exercez à Idiofa.
Sur ces piliers, l'agriculture, nous ne sommes pas encore vraiment dans une agriculture intense. On est en train d'essayer pour introduire de nouvelles techniques. Notamment, on parle actuellement de l'agriculture durable avec l'agroforesterie. Mais à la phase où nous sommes d'abord en train de faire ce qu'on appelle l'intercrop ou l'agriculture intercalaire. Nous labourons le terrain avec les tracteurs où on plante les arbres. Après, les mamans, on passe avec des cultures généralement vivrières, les maniocs, les maïs, la courge et tout ce qui va avec. Et notre vision est vraiment d'installer une agriculture mécanique, qu'on appelle actuellement l'agriculture durable, pour que nous puissions pas aussi continuer à faire dégrader des terres que nous utilisons déjà, parce que notre objectif est de créer un équilibre entre la nature et l'homme, donc qui est un progrès socio-économique pour l'homme, donc qui est l'employabilité, les soins de santé. C'est comme ça qu'on va loin dans notre approche. Nous octroyons même des bourses d'études pour les enfants de la région qui vont faire des universités Lubumbashi, Inikin, Université de Kikwit et un peu partout.
Faja Lobby est sur les points de se lancer dans les marchés du crédit carbone. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Parce qu'il suffit pas seulement de planter la forêt. Les gens n'ont pas d'autres sources économiques. Ils ne vivent que dans leur forêt. Parce que chez nous, à Idiofat, quand les gens ils coupent des arbres là-bas, ils vendent des bois là pour construire des maisons. Et il y a un papa, par exemple, qui fait étudier son enfant qu'avec ses revenus là. Pour nous, il suffira pas seulement de planter les forêts. Il faut aussi penser à des modèles économiques, comment rentabiliser ces forêts. Donc les crédits carbone, c'est en quelque sorte aussi un permis. Échangeable.
Est-ce que c'était l'idée du départ de la structure, les crédits carbone?
Non, pour nous, au départ, c'était un rêve de planter des forêts, vraiment restaurer la nature, que tout ce qui est revenu rentre au niveau de la population, ou soit aux communautés locales. Nous avons dit 80% de tout ce qui va être comme bénéfice de ces crédits carbone vont rentrer auprès des communautés, qu'il y ait vraiment des changements au niveau des villages, cela diminuerait même l'exode rural.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée nette sur le nombre d'emplois créés en zone rurale par votre ONG dans les territoires d'Idiofa?
Oui, c'est immense. Peut-être que je peux dire qu'on est le plus grand employeur, même si on peut dire peut-être qu'on ne paye pas trop. Et à ce jour, on est presque à 3600 emplois directs, 3600 personnes qui sont impliquées dans les projets. Mais ce sont presque toutes les personnes issues des communautés locales. Mais l'objectif, c'est pas qu'on reste à 3600. On peut baisser l'effectif, on peut augmenter en fonction des subventions qu'on peut recevoir pour vraiment continuer avec les projets.
Monsieur Saki Madilo, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal sur Radio Okapi, un journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi et mis en onde par Debs Vita. Le tout coordonné et supervisé par Pelé Kipelamondo.